Première.
13h15, 14h30.
Un jour dans l'histoire.
Laurent de Hausset.
Nous sommes en mai 1365 à Tournai. Observons, si vous le voulez bien, une affaire portée au Parlement de la ville. Elle concerne un nommé Jean Liémance, déclaré fou. Les enfants de ce marchand tiennent à rappeler à l'institution que, selon la coutume et l'usage notoire de notre ville, la garde, conduite et administration des orphelins et des déments, ainsi que de leurs biens, revient aux échevins. Dès que la nouvelle leur parvient que certains de leurs sujets sont devenus orphelins ou déments, ils doivent d'abord leur donner, à eux et à leurs biens, des procurations et des gouverneurs, ou inscrire dans leurs papiers l'état des orphelins et des déments et de leurs biens, puis ils sont tenus d'administrer ces biens à leur risque. Alors que fait-on des déments au Moyen-Âge? Comment les considère-t-on? Selon quels critères? Comment juge-t-on les fous? C'est la leçon du jour.
La première,
13h15, 14h30,
un jour dans l'histoire.
Les rues grouillent de fous qui battent la campagne, mais nul ne reconnaît qu'ils méritent ce nom. C'est pourquoi, en ce jour, je cherche à équiper toute une armée navale afin de les embarquer tous. Mais une seule nef ne suffirait pas à les entasser tous dans son nombreux défi.
Extrait d'un spectacle musical créé à partir des textes de Sébastien Brandt, La Nef des Fous, c'est l'ensemble Obsidienne, né pour évoquer donc la justice et les fous au Moyen-Âge. Nous sommes avec Maud Ternon. Bonjour Maud Ternon.
Bonjour Laurent de Hausset.
Vous êtes en duplex à Paris, vous êtes professeur agrégé d'histoire et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui paraît aux éditions Presse Universitaire de France qui s'appelle tout simplement « Juger les fous au Moyen-Âge ». Alors, dans la doctrine juridique médiévale, l'opinion la plus répandue veut que la folie se prouve « exactibus et sermonibus », c'est-à-dire d'après les gestes et les discours, qu'est-ce que ça signifie? À quoi reconnaît-on un dément au Moyen-Âge?
Eh bien, dans la pratique judiciaire, on reconnaît la folie à travers un certain nombre de comportements déviants, des comportements très violents, agressifs, du délire verbal, une divagation également, des gens qui partent sur les chemins sans prévenir personne, qui se dépouillent éventuellement de leurs vêtements et qui, de manière générale, agissent à l'inverse de ce qu'ils devraient faire, considérer leur statut social.
C'est pas que la folie agressive qui est prise en considération.
Alors non, hein, les archives judiciaires médiévales reflètent aussi les déviances liées à la gestion des biens, c'est-à-dire les gens qui dissipent leur patrimoine, ce que on appelle alors la prodigalité. Et ça donne lieu à de nombreux procès, par exemple pour faire annuler des contrats ou des testaments qui sont considérés comme émanant de prodigues.
Alors on reviendra justement à ce parallèle entre prodigalité et folie. Les mots qui permettent de désigner la folie sont assez nombreux. Mais dites-vous dans votre ouvrage, Maud Ternon, il repose sur une conception univoque de furor ou fouror au regard du droit. C'est un terme qui remonte à l'Antiquité, hein, fouror.
Absolument, ce mot-là appartient au droit romain depuis la plus haute antiquité, effectivement, et donc il se transmet à la doctrine juridique médiévale qui est largement fondée sur le droit romain. Furor, ce mot latin, signifie à la fois la folie agressive, dangereuse, colérique, mais aussi de manière générique la folie. Donc furor, furiosus, et puis en français furieux, peut désigner le fou et pas nécessairement le fou furieux. Comme on dirait aujourd'hui, le fou agité.
Alors, les sources juridiques et judiciaires donnent à voir certaines caractéristiques générales de la maladie mentale. On fait intervenir notamment la durée. Le temps long est important dans la folie au Moyen-Âge.
Oui, le temps long est important, particulièrement dans la sphère judiciaire, parce que on juge des actes et il s'agit de bien montrer que l'acte mis en cause a été commis sous l'emprise de la folie. Si c'est un crime, il faut montrer qu'il y avait folie à ce moment-là. Si c'est un contrat ou un testament qu'on cherche à faire annuler, il faut montrer qu'à ce moment-là, il y avait folie. Donc l'estimation de la durée est très importante.
Ouais. Et on ne présente rarement d'ailleurs la folie comme un état définitif. Hein.
Tout à fait, la folie, on considère qu'elle peut guérir, et puis on considère surtout qu'elle fonctionne par cycle, par crise, par intermittence.
Alors, est-ce que l'on évoque dans les archives judiciaires que vous avez consultées les causes de la folie, des causes de folie ?
Oui, absolument. Et dans les archives judiciaires, les causes sont strictement naturelles. La folie est assimilée aux symptômes d'une maladie physiologique. Donc elle est causée, c'est une séquelle d'une maladie, en général décrite comme des fièvres. L'individu a été atteint de fortes fièvres qui l'ont laissé atteint intellectuellement. Et puis il y a d'autres causes possibles, des traumatismes émotionnels notamment, hein, un deuil très très sévère, peut amener à la folie.
L'âge aussi.
Et alors l'âge peut être associé à la folie, alors peut-être plutôt à la simplicité d'esprit. La jeunesse est considérée au Moyen-Âge comme un âge eh bien, qui n'est pas encore mature, mais alors jusqu'à 20 ans, 30 ans, on n'a pas forcément atteint l'âge d'homme, et donc on n'est pas mature forcément. Donc ça peut être associé à une insuffisance intellectuelle. Et puis il y a aussi l'idée de sénilité qui est présente, qui existe aussi déjà au Moyen-Âge.
Alors si les registres de justice laissent peu de place au surnaturel, on va voir avec vous, Maud Ternon, que cette dimension, toutefois, n'est pas complètement ignorée. Juger les fous au Moyen-Âge, c'est l'émission du jour.
Messire l'abbé, vous m'avez invité à enquêter sur la présence de l'esprit malin dans votre abbaye. Et j'ai déjà trouvé le sucre de Satan. Combien de fois ai-je vu ces rites sataniques et ces objets pestiférés, chats et coqs noirs, ces frôleurs d'enfer ? Une sorcière, un moine séduit des rites sataniques. Qu'on les enferme !
Un jour dans l'histoire, sur la première.
Un extrait du film « Le nom de la rose » de Jean-Jacques Haneau, d'après le roman d'Umberto Eco. « Juger les fous au Moyen-Âge », c'est l'ouvrage de Maud Ternon. Alors en novembre 1425, Jeannette, femme de Thomas Bayet, tue son époux à coups de pierre sur la tête alors qu'il est endormi dans le lit conjugal. C'est un geste qui s'inscrit dans une succession d'actes violents qui sont commis sous l'emprise de visions. Jeannette entend des voix et l'a vu, son mari l'a quitté, et puis d'autres choses de ce genre. Est-ce que Maud Ternon, la justice tient compte de cet aspect surnaturel de la folie ?
Eh bien, oui, la justice est forcée d'en tenir compte parce que l'idée de possession démoniaque existe au Moyen-Âge, elle est présente dans les esprits. Mais elle fait débat. Tout le monde ne l'accepte pas de la même manière. Les esprits, disons, les plus éclairés, en tout cas à nos yeux aujourd'hui, considèrent qu'il peut s'agir de superstition. Et dans l'exemple que vous venez de citer, cet exemple de 1425, on voit dans la documentation, dans cette archive médiévale, qu'il y a des voix qui sont citées, mais elles ne sont pas décrites comme des voix démoniaques. Donc on a l'impression que les gens de justice essayent de gommer au maximum la part du surnaturel.
Le 14e et le 15e siècle, c'est aussi un temps où l'on critique la religiosité, les mystiques, les béguines. Elles sont considérées comme folles souvent.
Elles sont critiquées, elles peuvent être considérées comme folles, on peut les décrire comme folles pour les discréditer. Après, le plus souvent, leurs ennemis les décrivent plutôt comme des simulatrices ou alors comme des épileptiques. On emploie plutôt ce terme-là pour les discréditer plutôt que le terme de malade mental.
Alors, prouver la folie n'est pas chose aisée, hein, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage, Maud Ternon. Certains juristes rappellent que d'aucuns simulent la démence soit pour échapper à la peine de leur crime, soit pour échapper au charge publique obligatoire qui leur incombe. Alors comment prouve-t-on la folie au Moyen-Âge ? On va chercher des témoins ? Comment ça se passe ?
C'est tout à fait comme ça. Ce qui est le mode de preuve le plus employé au Moyen-Âge, de toute façon, en général, c'est le recueil de témoignages qui constitue ce qu'on appelle une enquête. Donc là, pour la folie, on interroge les voisins, les gens qui connaissent le mieux la personne supposée démente.
Est-ce qu'on recourt à une expertise médicale, dirait-on aujourd'hui ?
Eh bien, c'est assez étonnant pour nous, mais non, on ne recourt pas à l'expertise médicale pour la démence. Il semblerait que les juges médiévaux estiment qu'ils sont suffisamment armés pour reconnaître eux-mêmes la folie. Et cela alors que l'expertise médicale s'est développée très fortement dans les derniers siècles du Moyen-Âge pour d'autres affaires.
Vous le disiez tout à l'heure, Maud Ternon, vous vous êtes rendu compte en consultant les archives que la folie au Moyen-Âge prend très souvent les formes de la prodigalité, donc le prodigue, celui qui dissipe ses biens et qui se voit et donc se voit interdire l'administration de ses biens, il est mis sous curatelle, mais comment en vient-on à cette assimilation? Comment ça démarre?
Eh bien, cette assimilation est très ancienne et on est frappé par la prégnance de cette association. Elle remonte, là encore, au droit romain de la plus haute antiquité. C'est-à-dire que le fou et le prodigue, le dissipateur, sont tous les deux des adultes considérés comme incapables de gérer leurs biens du point de vue du droit. Et cette association s'est transmise jusqu'au Moyen-Âge, à la fois dans le droit, mais aussi dans la littérature politique, dans les traités moraux de l'Antiquité et du Moyen-Âge.
On voit en fait l'importance de la notion de propriété privée.
On voit tout à fait l'importance de la transmission du patrimoine familial et l'importance que représente ce patrimoine pour les familles parce que il est représentatif et fondateur de leur honneur et l'honneur est une valeur très très fondatrice dans la société médiévale.
On parle de petit gouvernement, qu'est-ce que c'est ?
Le petit gouvernement, c'est une expression médiévale pour désigner la mauvaise conduite, ou en tout cas la conduite médiocre qui fait que la personne dissipe ses biens, les administre mal, les vend ou les donne aux mauvaises personnes. Voilà, donc une déviance par rapport à la gestion des biens.
Alors le Moyen-Âge, donc on l'a dit, utilise la curatelle à l'écart des adultes jugés inaptes à administrer leurs biens. Alors c'est à la fois une protection, et c'est une charge publique, et c'est une obligation aussi.
La curatelle est considérée en droit romain, oui, comme une charge publique. Après, au Moyen-Âge, elle est appliquée, mais les familles l'appliquent, disons, à leur profit. Hein, c'est une règle du droit romain qui est utilisée par les gens du Moyen-Âge pour dans leur intérêt.
On va voir d'ailleurs comment le rapport entre pouvoir public, pouvoir judiciaire et le pouvoir des familles va évoluer au cours du Moyen-Âge. Nous sommes avec Maud Ternon.
J'ai un souverain mépris pour ces sages qui crient au fat, à l'insolent, quand quelqu'un se vante et s'en fait à croire. Si c'est être fou, cela me convient à merveille. Quoi de mieux pour la folie que d'être la trompette de son mérite et de se chanter elle-même ?
Question. Laurent de Hausset sur la première.
Voilà, un extrait d'éloge de la folie d'Erasme et extrait d'une émission de France Musique. Alors, on le disait, Maud Ternon, les pouvoirs familiaux et les pouvoirs publics vont se retrouver en concurrence au Moyen-Âge, en matière de curatelle, des déments notamment. Jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, on procède à des arrangements familiaux. Et puis donc, vous le disiez, la diffusion du droit romain va bouleverser la donne. De quelle manière ?
Eh bien, disons jusqu'au milieu du XIIIe siècle, les familles s'arrangent, mais selon des règles qui sont les règles de la coutume et des coutumes propres à chaque région. On confie la curatelle à un membre de la parenté qui est défini par la coutume. Et donc, ça se passe sans intervention des juges. Et à partir du milieu du XIIIe et surtout à partir du début du XIVe siècle, le droit romain arrive en force dans les tribunaux qui s'institutionnalisent aussi à cette période-là. Et la curatelle romaine nécessite le recours à un tribunal. Donc le rapport de force évolue. Bon, pour la période médiévale jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce qu'on observe, c'est que les familles utilisent à leur profit l'appareil judiciaire. Ce n'est pas l'appareil judiciaire qui impose ses solutions aux familles.
Mais les premiers bénéficiaires de cette évolution seront souvent quand même les officiers de justice, financièrement par exemple.
Mais tout à fait. Hein. À partir du moment où il y a recours au tribunal, eh bien, effectivement, il y a des frais qui sont versés aux tribunaux. Et puis, de toute façon, cela permet aux justiciers de faire progresser leur autorité progressivement. Donc, aux officiers de justice, mais bien sûr aussi à l'autorité détentrice de cette justice.
Alors, le roi et ses gens de justice ne sont pas les seuls interlocuteurs des familles dans le règlement judiciaire des situations de démence. C'est ce que vous rappelez dans votre ouvrage, Juger les fous au Moyen-Âge. Alors, quels sont les autres acteurs qui peuvent intervenir en matière de démence ?
Eh bien, les seigneurs peuvent intervenir quand l'ordre public est troublé. Et puis pour ce qui est des mises en curatelle, les villes, les municipalités sont très actives également. Elles veillent à justement protéger cette prérogative, cette activité judiciaire, afin de la garder entre leurs mains.
On parle de justice d'église aussi, qu'est-ce que c'est ?
Les justices d'église sont les tribunaux qui sont tenus par les évêques, en particulier par les différentes autorités ecclésiastiques.
Alors vous comparez également dans votre ouvrage Moternon la situation en France et en Angleterre. En Angleterre, le roi occupe, on va dire, une situation particulière, privilégiée en matière de traitement de la démence.
Tout à fait. Le roi d'Angleterre détient une prérogative que le roi de France n'a pas. C'est-à-dire qu'en France, le roi n'a pas de mission particulière à l'égard des fous. En Angleterre, le roi a récupéré une prérogative féodale, qui est que, en principe, tous les biens des fous doivent être contrôlés par lui. Donc lorsqu'il s'aperçoit que l'un de ses sujets, et en particulier l'un de ses vassaux, les plus riches, ceux qui détiennent des fiefs, est dément, eh bien il envoie ses officiers pour mettre la main sur les biens, et c'est le roi qui va décider à qui il confie la garde de ses biens, et il y aura un profit pour la couronne.
Alors, il existe des exemples, et vous en donnez quelques-uns dans votre ouvrage, des exemples où la folie d'un monarque, d'un seigneur, est utilisée à des fins politiques.
Oui, on voit que ces procédures de droit romain que sont la curatelle et l'interdiction peuvent effectivement être utilisées sur le plan politique. Donc tel grand duc va chercher à mettre en curatelle un plus petit comte dont il cherche à récupérer le comté. Voilà, on voit apparaître des scénarios de ce type au XIVe et XVe siècle.
Et c'est là qu'on voit également apparaître l'argumentation de l'intérêt du bien public du royaume.
Oui, parce que cette argumentation apparaît dans le discours politique à la fin du Moyen-Âge, et on la voit apparaître dans une affaire du XVe siècle relative au comté d'Armagnac, au moment où le roi cherche à vraiment mettre la main sur ce comté-là, et il fait mettre en curatelle le dernier comte d'Armagnac au nom du bien public.
Alors les crimes commis par les fous sont très rares dans les archives de la justice pénale médiévale. Ils existent néanmoins. Alors comment a-t-on jugé la folie criminelle ? C'est ce qu'on va voir avec vous, Maud Ternon.
Et moi je dis, et je soutiens, que le purgatoire n'est pas nommé une seule fois dans les Saintes Écritures, que les faux sacrements de la confirmation et de l'extrême-onction n'ont pas été institués par le Christ.
Anathème ! De toute façon, tu vas mourir, car tu es relapse, tu es retombé dans tes erreurs. Mais il te reste une chance d'échapper aux peines de l'enfer. Dis simplement, je renonce, et ton âme sera sauvée.
Je ne peux pas. Je voudrais bien, mais je ne peux pas.
Emmenez-le.
Mon père.
Qu'y a-t-il, mon fils ?
Quelque chose me trouble.
Je vous écoute.
Je me demande si brûler les hérétiques, ce n'est pas agir contre la volonté de l'Esprit-Saint.
C'est la justice des hommes qui le punit. C'est le bras séculier.
À quoi auront servi tous ces morts ?
Savez-vous bien ce que vous dites ?
Je ne le sais pas.
Et vous persistez ?
13h15, 14h30.
Laurent Dehaussay sur la première.
La Voie lactée, c'est un extrait du film de Luis Buñuel. Alors, meurtre d'un conjoint, parricide, meurtre d'un beau-frère, les crimes intrafamiliaux existent, Maud Ternon, mais au Moyen-Âge, on semble avoir du mal à l'expliquer, même à justifier ces crimes familiaux.
Oui, tout à fait. La cellule familiale est considérée comme étant un sanctuaire, normalement le lieu refuge, donc un lieu où il ne devrait pas y avoir de criminalité. Et donc ces crimes inexplicables, absurdes, on les explique au moyen de la folie.
Comment va-t-on présenter le fou ? Comment va-t-on le argumenter sa défense, s'il y en a une ?
eh bien, on va le présenter comme quelqu'un qui est tombé dans la démence depuis depuis longtemps en raison d'une maladie ou d'une autre cause. Et puis, alors les documents que j'ai utilisés, qui sont les lettres de grâce, donc par lesquelles le roi gracie le crime. Eh bien, ces lettres de grâce relatent tout le déroulement de la maladie mentale qui aboutit jusqu'au moment du crime.
Oui, on ne retient généralement pas la préméditation, hein.
Non, absolument pas. Dans le cas de la démence, il n'y a pas préméditation, puisque le dément n'est pas capable d'avoir une intention, en fait. Ça, c'est le principe juridique fondamental. Il n'est pas capable d'avoir une intention, donc évidemment pas de préméditation.
Ouais. Alors, la justice semble indulgente au Moyen-Âge face à ces crimes commis en famille, y compris le meurtre de son enfant.
Oui, alors sur l'infanticide en particulier, au Moyen-Âge, il y a deux types d'infanticides. Il y a la jeune mère célibataire, comme on dirait aujourd'hui, donc la jeune femme qui s'est retrouvée enceinte hors mariage et qui va tuer son enfant à la naissance. Ça, c'est l'infanticide, disons, pour raison économique, pour raison de misère, qui n'a pas à voir avec la folie. Les infanticides commis sous l'emprise de la folie par des mères ou par des pères, eh bien, touchent en général des enfants plus âgés. Ce qui là est inexplicable, ça va à l'encontre de ce que les sources médiévales appellent le bon amour maternel que tout père et toute mère doit porter à ses enfants.
Alors, dans les derniers siècles du Moyen-Âge, le suicide et la folie également entretiennent des liens étroits. Alors, comment juge-t-on, entre guillemets, celui qui se tue ?
Eh bien, là encore, il y a deux types de jugements très contrastés. Soit il est prouvé que le suicide a été un acte délibéré, et là, il est jugé très sévèrement. Le corps même du suicidé est châtié, et la famille survivante est châtiée également parce que les biens sont confisqués. Mais s'il est prouvé, l'autre type de jugement, s'il est prouvé que le suicidé était fou au moment de commettre son crime, aucune peine n'est appliquée.
Alors, on le disait, l'autorité publique prend en charge une partie limitée des problèmes causés par la dangerosité des fous. Les proches sont responsables de ce dément, de leur dément aussi?
Dans l'idée, dans le principe, il y a une responsabilité pénale des proches, oui, parce qu'ils sont censés garder chez eux le dément de manière sûre, de l'attacher, de le tenir bien enfermé s'il est dangereux. Mais dans la pratique, on ne voit pas de proches qui soient condamnés pour négligence.
Alors, est-ce qu'on trouve beaucoup de fous en prison au Moyen-Âge ?
Non, on en trouve peu, parce que un prisonnier qui devient dément, c'est trop compliqué à gérer pour les geôliers du Moyen-Âge. La prison médiévale n'est pas destinée à garder des prisonniers trop longtemps, et en particulier des prisonniers qui sont malades, qui sont déments.
Quand est-ce qu'on peut dater les premières infrastructures hospitalières mises au service des déments, de la folie ?
Eh bien, au Moyen-Âge, il n'y en a pas vraiment, ou alors ce sont vraiment de timides débuts. Dans les derniers siècles du Moyen-Âge, on voit que certains hôpitaux comme Bedlam à Londres ou les Saints-Innocents à Valence en Espagne ont l'intention d'accueillir des fous, mais ça ne se fait vraiment, ils ne se spécialisent vraiment que à l'époque moderne.
Est-ce qu'on peut constater dans les archives que vous avez consultées une différence de traitement entre le fou et la folle ?
Eh bien, non. Moi, je n'ai pas constaté dans mes archives de différence majeure selon le genre. Après, d'autres sources médiévales pourraient refléter ça davantage.
Ouais. L'invention d'une politique publique de gestion de population, donc de fous, est une affaire plus d'entité locale, dites-vous, que réellement de la volonté d'un roi ou d'un seigneur. Ce sont vraiment des initiatives locales.
Oui, en tout cas dans le Royaume de France, oui. Comme on l'a vu, pour l'Angleterre, c'est sans doute différent, mais dans le Royaume de France, ce sont les villes, et en particulier les villes du nord du Royaume, qui développent cette idée que c'est à elles d'administrer les biens des fous, et ensuite, à partir de la Renaissance, les personnes aussi des fous. Ça se passe dans le nord de la France, au sein des gouvernements municipaux.
On peut remarquer, enfin, est-ce que vous diriez qu'à travers les archives que vous avez consultées, on note une certaine compassion, une certaine indulgence à l'égard de cet état de démence, de folie au Moyen-Âge ?
Oui, absolument. C'est très important. Le fou n'est pas responsable pénalement de ses actes. Et en plus de ce principe juridique, il y a un principe moral qui est très fort. C'est celui de la clémence à l'égard de la folie. Le juge fait preuve de miséricorde lorsqu'il s'aperçoit que l'accusé est dément. Il l'acquitte très rapidement. Et le juge, ne l'oublions pas, au Moyen-Âge, juge sous le regard de Dieu. C'est un jugement qui est aussi chrétien. Donc ce principe de compassion est très fort.
Voilà, Juger les fous au Moyen-Âge, c'est cet ouvrage passionnant, hein, Maud Ternon, qui paraît aux éditions PUF, les presses universitaires de France. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous. 13h15.